Soyez les bienvenus sur France Inter, il est 8h. Le journal Florence Paracuelos.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Les médecins et les labos, histoire d'amour et de cadeaux, ont-ils de l'influence sur les ordonnances? Oui, répond une étude, même si les docteurs n'en ont pas toujours conscience. Des histoires de campagne électorale à la une, celle du Front National et de ses frais possiblement surfacturés avant d'être remboursés par l'État en 2012, à faire décortiquer au tribunal à partir d'aujourd'hui. 13 milliards d'euros en yuan, ça fait combien? Un gros contrat signé au profit des entreprises françaises. Emmanuel Macron s'en félicite ce matin à Pékin. Il est où le bonheur? Dans une écologie contraignante, loin des gros contrats chinois. C'est le credo de l'invité du grand entretien ce matin.
Oui, il s'agit du député La France Insoumise François Ruffin, qui publie donc ce livre « Il est où le bonheur ?». C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous pourrez dialoguer avec François Ruffin. C'est un livre sur l'écologie politique au 0145 24 7000, sur les réseaux sociaux et via l'application mobile de France Inter.
Dans ce journal aussi, la dépouille d'un général d'Empire retrouvé 2 siècles plus tard en Russie, c'est bien lui, c'est confirmé. Et puis une main à la recherche de son corps au cinéma, un film d'animation étrange et séduisant ce mercredi.
France Inter.
De quoi sont faites les ordonnances de nos médecins? De leur savoir encyclopédique sur les molécules qui guérissent, ou bien de leur déjeuner payé par les labos pharmaceutiques? Une étude met les pieds dans le plat, publiée par une équipe de l'université et du CHU de Rennes. Elle indique une tendance claire, les médecins qui reçoivent des cadeaux des labos font des prescriptions plus chères et de moins bonne qualité que les autres. Daniel Messager.
Les prescriptions de 41 000 médecins généralistes ont été étudiées en croisant les informations du site Transparence Santé, où les laboratoires ont obligation de déclarer les cadeaux faits aux médecins, et celles du Système National des Données de Santé. Il apparaît que la quasi-totalité de ces médecins avaient bénéficié de cadeaux. Le docteur Bruno Goupil est co-auteur de l'étude. Lui n'a, précise-t-il, aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique.
90% d'entre eux ont reçu au moins un cadeau entre 2013 et 2016. Des nuits d'hôtel ou encore des repas offerts par les laboratoires. Après, dans notre analyse, on trouve que les médecins qui n'ont jamais reçu de cadeaux des firmes pharmaceutiques ont en moyenne des prescriptions qui sont moins coûteuses, qu'ils prescrivent en moyenne moins de médicaments déconseillés par l'assurance maladie, qu'ils prescrivent plus de génériques, ont une efficacité similaire pour un coût moindre pour la collectivité.
Pour les futurs médecins, l'enseignement sur comment se prémunir de ces influences est encore très inégalement réparti dans les facultés, et pourtant...
Il n'y a pas vraiment de repas gratuits. Si un laboratoire décide de faire un cadeau, c'est qu'il pense qu'il peut en tirer un bénéfice. Ce serait curieux de se dire que les millions investis par les laboratoires en cadeaux sont investis vraiment à perte.
La revue médicale Prescrire vient de publier la somme versée par le laboratoire Servier pour des cadeaux à divers acteurs de santé, 108 millions d'euros entre 2012 et 2018.
Les labos qui investissent 23% de leur chiffre d'affaires dans la promotion des médicaments, c'est plus que ce qu'ils mettent dans la recherche. Étude à lire sur franceinter.fr. Et les futurs médecins sauront-ils résister aux sirènes des firmes pharmaceutiques grâce à leur profil plus diversifié? À partir de la rentrée prochaine, ils pourront entrer dans les études de médecine après une première année de licence de maths, de philo ou de droit avec option santé. Un parcours bis et plus de concours couperet à la fin de la première année. C'est la fin du numerus clausus publié hier au journal officiel.
Il est 8h04, 7 cadres du Rassemblement National et des proches de Marine Le Pen au tribunal jusqu'à la fin novembre.
Début du procès du financement des campagnes du parti entre 2012 et 2015. Le Front National, à l'époque, a-t-il escroqué l'État via son micro-parti Jeanne et la société de communication Riwal en surfacturant des kits de campagne aux candidats FN aux législatives avant de se les faire rembourser au titre des frais de campagne? Quid des montages financiers des municipales, des européennes et des départementales qui ont suivi? La justice a 3 semaines pour se faire une idée. En attendant, le système a-t-il changé au Rassemblement National? Et comment vont les finances du parti? Voici les réponses de Maxence Lambrecq.
D'un extrême à l'autre, désormais, tous les candidats aux municipales se débrouillent. Le parti ne leur prête pas 1 euro. Ils doivent eux-mêmes trouver une banque ou des colistiers généreux. Et le parti ne leur fournit pas non plus de kit de campagne à l'origine de ce procès. Chacun fait comme il peut. Il n'y aura que les bulletins de vote et les professions de foi qui seront centralisés parce que directement remboursés à l'imprimeur. Le RN évite ainsi d'éventuels ennuis. Et même si on voulait aider nos candidats, candidat, on n'y arriverait pas, avoue un cadre. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, le RN doit encore rembourser une partie de son vieux prêt russe de 9 millions et 4,5 millions d'euros à Jean-Marie Le Pen, qui avait prêté cette somme pour la dernière présidentielle. Tout va rentrer dans l'ordre, assure le trésorier Valrhona Saint-Just. En mars prochain, le parti recevra de l'État sa dotation annuelle de 5 millions d'euros. Une bouffée d'oxygène qui devrait lui permettre de passer l'année. Reste l'immense défi du financement de la prochaine présidentielle qui inquiète déjà plusieurs élus.
Maxence Lambrecq, l'accès aux soins endurcis pour les demandeurs d'asile et les sans-papiers, des quotas de travailleurs étrangers définis par métier. C'est aujourd'hui que le gouvernement détaille son plan pour l'immigration. On en parlait hier. Et nous avons choisi de nous intéresser ce matin à ces réfugiés qui veulent monter leur entreprise. Des diplômés qui ont parfois fait de longues études dans leur pays d'origine. Ingénieur, artiste aussi, aidé par un incubateur d'entreprise qui vient d'ouvrir à Montreuil, en banlieue parisienne. Reportage signé Faustine Calmel.
Donc on va vous mettre en relation avec des experts.
Pendant 9 mois, les bénévoles de la Ruche vont rencontrer ces 12 entrepreneurs, 11 hommes et une femme.
Vous avez expliqué ton projet.
C'est un centre de formation théâtrale et cinéma.
Je m'appelle Zina Alalak, je suis comédienne syrienne. J'espère que la Ruche ait expliqué pour moi toutes les étapes administratives, toutes les ressources financières.
Zina sera accompagnée par un parrain, entrepreneur à Montreuil, et le salarié d'une banque partenaire pour les montages financiers.
Donc toi, ton projet, c'est de monter une société d'export de panneaux solaires.
J'ai déjà ouvert une société en Libye.
Agres, Libyen, est ingénieur dans le pétrole, sans travail depuis son arrivée en France il y a 5 ans.
Quand je vais aller à la banque, avec ma langue, ça ne marche pas du tout. Les gens, comme la Ruche, comment dire en français, it's amazing gift.
C'est un cadeau merveilleux.
C'est un vraiment cadeau.
En plus de faire revenir la confiance du côté des réfugiés, Sina Jocheni, responsable de cet incubateur, espère lutter contre les préjugés.
L'entrepreneuriat a trouvé que c'était le billet parfait pour montrer que c'est quand même des personnes actives qui ont fait des études. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de lutter contre l'effacement de ces personnes-là et qu'on arrive à les faire intégrer professionnellement.
La Ruche a 9 mois pour y arriver. Une nouvelle promotion de 15 entrepreneurs sera accueillie en janvier.
Et alors que les débats sur l'immigration, sur le voile et sur l'islam occupent le devant de la scène, le gouvernement a commandé un sondage auprès des musulmans de France, publié dans Le Parisien ce matin. 40% des personnes interrogées disent avoir subi des comportements racistes ces 5 dernières années. Des insultes liées à leur religion pour 1 sur 4, bien plus encore pour les femmes voilées, des discriminations dans la recherche d'un emploi ou d'un logement, essentiellement subies dans les villes moyennes et les territoires peu concernés par l'immigration. Du business entre la France et la Chine, porté par Emmanuel Macron au 3e jour de son voyage, plus de 13 milliards d'euros de contrats signés dans des secteurs divers et variés. Le président en fait lui-même l'inventaire, en commençant par l'agroalimentaire.
Sur l'agroalimentaire, nous avons là aussi enregistré beaucoup de progrès depuis 2 ans, avec cette fois encore des avancées sur l'octroi d'agréments pour nos entreprises, la conclusion de 2 nouveaux protocoles permettant la reprise des exportations sur la volaille, le lancement du processus d'enregistrement de 86 AOP viticoles et de nombreux accords sont également actés aujourd'hui entre nos entreprises dans l'ensemble des secteurs de ce partenariat, les énergies renouvelables, la ville durable, les transports, la santé, la prise en charge de la dépendance et de la petite enfance, l'innovation, le tourisme, le sport. Je l'ai dit hier dans mon intervention à la foire de Shanghai, nous saluons et encourageons les annonces faites et les mesures prises sur l'ouverture de la Chine.
Voilà, et c'est Areva qui devrait signer le plus gros contrat fin janvier pour une usine de traitement de déchets nucléaires. 11 milliards d'euros à la clé. Emmanuel Macron était au micro de Dominique André.
Il est 8h09, un nouveau témoignage accablant contre Donald Trump.
C'est l'enquête en destitution lancée par les démocrates qui dispose désormais de la déclaration de l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne. Revenant sur une première déposition, le diplomate affirme aujourd'hui que la Maison-Blanche a bien fait pression sur le président ukrainien pour obtenir des informations sur Joe Biden, démocrate et rival potentiel de Donald Trump aux prochaines présidentielles. Washington, Grégory Phillips.
Le 17 octobre dernier, Gordon Sondland avait été entendu pendant près de 10 heures par une commission conjointe de la Chambre des représentants. Mais aujourd'hui, l'actuel ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne explique que les autres témoignages recueillis par le Congrès lui ont rafraîchi la mémoire. Et donc, dans un courrier de 4 pages adressé aux parlementaires, il reconnaît que l'administration l'administration Trump a bien proposé au gouvernement ukrainien un échange de services, la livraison de l'aide militaire américaine, 390 millions de dollars, contre une enquête sur la compagnie gazière Burisma, employeur du fils de Joe Biden. Ce nouveau témoignage est accablant, d'autant plus que Sondland est considéré comme un très proche de Trump, dont il a même financé la campagne en 2016. La pression sur la Maison-Blanche ne cesse de monter. Les démocrates veulent désormais entendre Mick Mulvaney, le directeur de cabinet du président, mais qui normalement ne devrait pas répondre à cette convocation. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Un chef djihadiste tué par les forces françaises au Mali, information donnée par la ministre de la Défense. L'homme s'appelait Abou Abderrahman Al-Maghrebi, numéro 2, et leader religieux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est une organisation liée à Al-Qaïda qui a revendiqué plusieurs attaques terroristes au Mali et au Burkina Faso ces dernières années. Charles-Étienne Gudin, général d'Empire, tombé pendant la campagne de Russie. Son squelette a bien été retrouvé dans un parc de la ville de Smolensk au mois de juillet. L'analyse ADN est formelle. Sa dépouille va pouvoir être rapatriée à la demande de sa famille, qui voit grand Patricia Pourrez pour le retour de l'illustre militaire napoléonien.
Et comme on dit, c'est l'ADN qui a parlé. Il y a quelques semaines, les restes du frère et de la mère du général Gudin ont été exhumés du caveau familial situé à Saint-Maurice-sur-Aveyron, dans le Montargois. Des prélèvements ADN ont été faits et résultat, ça correspond bien à l'ADN de la dépouille retrouvée cet été en Russie. Un soulagement pour Pierre Malinowski, ancien légionnaire, à l'origine de ces fouilles en Russie.
L'ADN correspond à 100% et en plus, ils feront une confirmation avec l'ADN nucléaire dans deux jours, comme ça. Maintenant, c'est juste pour le folklore, hein, puisqu'il n'y a plus aucun doute. Ils m'ont dit de sabrer le champagne. Moi, je l'ai appris le premier hier soir. Hein. Et voilà, moi, j'ai transmis au président russe qui est au courant et au président français qui est au courant aussi. Puis on attend qu'il s'appelle.
Car maintenant, c'est une affaire de diplomatie. Les descendants du général Gudin souhaitent que la dépouille soit rapatriée en France pour un hommage national. Albéric d'Orléans est l'un des descendants directs du général Gudin.
Une cérémonie et une inhumation aux Invalides sont tout à fait légitimes, même s'il a été un peu oublié depuis. Il s'agit quand même d'un des plus grands généraux de l'époque napoléonienne. C'est l'homme qui a tenu tête à quasiment toute l'armée prussienne à la bataille de Auerstedt. Il mérite un hommage national.
Et une demande dans ce sens a déjà été transmise à l'Élysée.
Patricia Pourrez, France Bleu Orléans. La circulation des trains entre Bordeaux et Dax va rester interrompu jusqu'à midi. Des voies ont été inondées dans les Landes à la suite d'une coulée de boue. Les liaisons sont coupées depuis hier après-midi.
Il est 8h13, oubliez les consoles de jeux vidéo.
L'avenir du secteur se situe, paraît-il, dans le cloud. Ces serveurs qui stockent les données à notre place et nous permettent de jouer via Internet. Dans moins de deux semaines, Google va se lancer sur le créneau, ce qui ne fait pas peur aux Français de Shadow, précurseur du cloud gaming. Sébastien Sabiron, la petite start-up fondée en 2014 a même divisé ses prix par deux pour résister au rouleau compresseur américain.
Par exemple, là, on a un jeu de foot devant nous. On va pouvoir simplement lancer le jeu avec la manette. Et tu peux faire ton match de foot.
Le dernier né des jeux de football sur la télé du salon est sans console de jeu. La démonstration est bluffante. Rien de moins que le futur du jeu vidéo pour Emmanuel Freund, cofondateur de Shadow.
Shadow, en fait, c'est avoir une console incroyablement puissante et qui n'est jamais obsolète. Ou un ordinateur sur lequel on peut faire tourner n'importe quelle application. Et pareil, qui sera toujours à jour. Ça va s'adresser à quelqu'un qui a un vieil ordinateur, à des gens qui veulent jouer à la console mais qui n'ont pas envie de s'acheter une console, ça fait beaucoup de monde.
200 millions de joueurs PC, 300 millions sur console, un marché énorme et des acteurs encore peu nombreux avant l'arrivée du mastodonte Google. Mais la petite start-up française a un coup d'avance, Emmanuel Freund.
Nous, pour 12 euros par mois, on propose tous les jeux et toujours à jour. Google, pour 9 euros par mois, propose un catalogue de jeux limité dont il faut acheter chaque jeu.
Avec ses 70 000 abonnés, Shadow ne joue pas dans la même cour, mais ne craint pas outre mesure la concurrence de Google. Au contraire.
Google dit à tout le monde, c'est une technologie qui marche. Donc on a très intérêt à ce que Google fasse énormément de bruit. Et là, il y aura Google et Shadow, et on a très envie que les gens comparent.
Au total, Shadow a déjà levé 100 millions d'euros et se rêve en GAFA à l'européenne, respectueuse de la vie privée et de l'environnement.
Sébastien Sabiron, sur la route des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Lyon continue le voyage après sa victoire 3-1 hier soir face au Benfica Lisbonne. Pour Lille, c'est terminé, défaite 4-1 à Valence en Espagne. Enfin, avec 8 buts et 2 cartons rouges, le match de la soirée fut sans conteste le Chelsea-Ajax Amsterdam, 4 partout. Les Anglais et les Hollandais conservent la tête de leur groupe. Pour finir, je vous propose cette étrangeté au cinéma cette semaine, un film d'animation français qui pourrait bien se retrouver aux Oscars. J'ai perdu mon encore récompensé à Cannes déjà et au festival d'Annecy. C'est l'histoire d'une main à la recherche de son propriétaire. Premier film signé Jérémy Kaplan, étonnant et poétique, Corinne Pellissier.
Il y a d'abord cette histoire pas banale, adaptée du roman de Guillaume Laurent, Happy End. Une main tranchée, échappée d'un hôpital qui risque tout pour retrouver son corps. Tellement loufoque qu'il aura fallu à Jérémy Kaplan 8 années pour relever le défi de ce premier film rempli d'audace. Un sujet pas très vendeur, loin des codes classiques de l'animation, et un récit tout en sensation à travers le parcours de cette main que l'on suit partout, sur les toits, dans le métro ou les rues de Paris, dans un thriller mené tambour battant, rempli d'obstacles et de dangers. Difficile de résister au réalisme des dessins, des décors, la lumière, les perspectives et la temporalité de cette histoire faite de souvenirs, de personnages, au passé, au présent. L'époque où cette main rattachée à son corps jouait du piano ou tapotait dans le sable. L'époque aussi où ce jeune livreur de pizza, Naoufel, n'était pas encore amputé et cherchait l'amour. Un film poétique et intimiste, plein de métaphores, raconté à hauteur de main et magnifiquement servi par la musique mélancolique de Dan Levy du groupe The Do.
J'ai perdu mon corps, c'est un film d'animation pour adultes, vous l'aurez compris, recommandé chaudement par France Inter.
Merci Florence Paracuelos, la météo Marie-Pierre Planchon.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et c'est une journée de transition, Marie-Pierre.
Oui, Nicolas, avec un peu moins de pluie, on va dire sur la moitié nord ce matin, des Hauts-de-France en descendant vers la Bretagne, Île-de-France, les Pays de la Loire avec de belles éclaircies. Mais elles seront plus nombreuses hein, selon les régions, comme de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie. Ces pluies continues ce matin donneront de la neige sur les Pyrénées des 1500 mètres. Des Vosges aux Alpes, vous aurez aussi une matinée bien pluvieuse en continu avec de la neige des 1300 mètres d'altitude. Puis autour de la Méditerranée, retour petit à petit du ciel bleu grâce au vent, sauf encore où l'instabilité va donner encore des orages. Le mercure est en baisse ce matin. Au plus bas, on relève 2 à Mourmelon-le-Grand dans la Marne, 3 en Lozère, 6 à Charleville-Mézières, 8 à Paris, 13 dans les Landes.
Et cet après-midi, arrivée d'une nouvelle perturbation.
Eh oui, sur le Finistère, et elle va gagner rapidement la façade atlantique. Elle sera très active, accompagnée d'un bon vent de nord-ouest. Partout ailleurs, excepté autour de la Grande Bleue, ce sera une très légère accalmie sous un régime d'averse entre deux éclaircies. Et vous aurez un petit peu plus froid, aucune valeur au-dessus des 20 degrés. Il fera 5 à Espalion dans l'Aveyron, 7 à Morteau dans le Doubs, 9 à Rodez, 12 à Paris, à Amiens, Strasbourg, Clermont-Ferrand ou Lyon, pas plus de 13 à Bordeaux et Nantes, comptez 17 à Perpignan et 18 à Saint-Laurent-du-Gard et Ajaccio.